Ce soir, j'aimerais partager avec vous assez simplement en fait des passages que Jésus a fait, les rencontres de Jésus un petit peu, pour parler de sa grâce, une facette de la grâce. Ce serait un bien grand mot, des livres de théologie, des grands pavés parleraient de la grâce, mais je voudrais juste en parler simplement pour dire à quel point la grâce est scandaleuse, à quel point la grâce est scandaleuse. Je parlerai ce soir de le scandale de la grâce. Vous savez, la grâce, on dit que c'est quelque chose de merveilleux, c'est extraordinaire, c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes sauvés, c'est par la grâce de Dieu et nous en sommes bénéficiaires. Nous avons obtenu acquis, nous avons saisi la grâce par la foi. Et si vous regardez un petit peu toute votre expérience avec Jésus-Christ, ce que Dieu a fait pour vous, on dit souvent, oui, Dieu m'a fait grâce. Dieu est plein de grâce. On chante grâce infinie de notre Dieu. Est-ce que vous êtes en train de vous remémorer en ce moment tout ce que Dieu a fait en ce moment dans votre vie, le jour même où il vous a touché, peut-être même avant? Vous souvenez-vous de ce moment où Dieu a percuté votre cœur par son amour, qui vous a protégé à des moments? Vous souvenez-vous de cette main de Dieu? J'aimerais ce soir partager quatre histoires auxquelles on va être un peu spectateur et on va faire comme si on était vraiment dans ces histoires-là. On serait des assistants qui verraient ces scènes. On assistera à une lapidation. On assistera à une condamnation à mort. Et comme on est le soir, on assistera à deux repas. Le premier épisode, c'est l'épisode de la femme adultère. Cet épisode se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 8, du verset 3 à 7. Alors, les spécialistes de la loi et les pharisiens, parenthèse, juste pour vous dire, les spécialistes de la loi et les pharisiens, pour ceux qui ne sont pas encore trop familiers avec ça, sont ceux qui vraiment connaissent la loi de Moïse, la loi juive, pas mal. Ils ont fait, je dirais aujourd'hui, un master de théologie rabbinique de la loi de Moïse. C'est vraiment des têtes, des personnes considérées les plus très religieuses. Donc, les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu ?» Il disait cela pour lui tendre un piège, afin de pouvoir l'accuser. Et comme il continua à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » La suite de l'épisode raconte que les gens étaient repris dans leur conscience et sont partis. Donc la suite au verset 10 et 11, j'ai relevé que le verset 11, Jésus dit à la femme accusée et surprise en train de commettre un adultère, « Moi non plus je ne te condamne pas, vas-y et désormais ne pêche plus. » Le deuxième passage se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 7. C'est l'épisode de la pécheresse, d'une femme qui est connue par toute la ville comme une femme avec de grands péchés. Pour te dire, je vais juste vous résumer. En fait, Jésus a accepté de manger chez un pharisien, Simon le pharisien. Il l'invite à manger et puis une femme l'a su, une femme connue pour de grands péchés, va dans la maison de Simon le pharisien et elle va lui verser du parfum. Elle va pleurer sur les pieds de Jésus. Elle va essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Elle va l'aimer, tout simplement. Elle va l'adorer. Et dans la tête du grand religieux, dans la tête de celui qui connaît la loi de Moïse, dans la tête de celui qui est hyper fort en termes de piété et de religion, Il se dit en lui-même, s'il était prophète, en parlant de Jésus, il saurait que cette femme serait une femme avec de grands péchés. Et Jésus, je ne vais pas dire lui répond parce que Simon le pharisien le disait en lui-même, lui parle de la parabole des deux créanciers et lui dit à la toute fin comme conclusion, vois-tu, cette femme m'a beaucoup aimé quand elle est arrivée. Elle a lavé mes pieds avec ses cheveux. Elle m'a parfumé. Elle m'a honoré. Toi, tu m'as juste invité à manger. Il dit au verset 47, « C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. » Ça, c'était la conclusion de la parabole du créancier. Troisième épisode, le brigand sur la croix. On retrouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, versets 39 à 43. Vous êtes prêts? On assiste à une condamnation à mort? Verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant, « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi !» Mais l'autre le reprenait, l'autre brigand, « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Et Jésus lui dit au verset 43, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Et le dernier épisode que je voudrais vous conter se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 9, du verset 9 à 13. Jésus partit de là. En passant, il vit un homme assis au bord des taxes et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs ?» Mais Jésus, qui avait entendu, leur dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je désire la bonté et non les sacrifices. » En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. C'est bon? Vous avez ces quatre épisodes dans votre tête? On aurait pu en raconter plein, en fait. J'aurais pu citer tellement de rencontres, tellement de passages, tellement d'histoires par rapport à Jésus qui rencontre les hommes et les femmes. Mais chacun a sa valeur. Et juste pour mettre en scène, vous avez à chaque fois un pécheur. Une personne que le monde condamnerait. Et là, majoritairement, de ce que l'on voit, c'est les pharisiens. Les hommes censés être les plus proches de Dieu sur le plan de la lettre, sur le plan de la loi. Les gens qui ont étudié la Torah. Les gens qui ont vraiment cherché dans la parole de Dieu. Mais qui, eux, à force de chercher, sont devenus des juges eux-mêmes. Et on dit, regardez, cette femme, elle a commis un adultère. Et la loi de Moïse dit « il faut la lapider ». Cette femme qui est entrée dans la maison de Simon le pharisien a été connue de tous. Son péché était connu de tous. Elle n'a même pas de prénom. On appelle la femme avec des grands péchés, la femme pécheresse. C'est comme ça qu'on la désigne. Encore une fois de plus, celui qui la juge, celui qui la condamne, c'est quelqu'un qui connaît la loi, très spirituel, qui l'a étudié, là pour condamner, là pour juger. C'est scandaleux. Qui pourrait faire grâce à un brigand qui a commis des actes horribles, qui a mérité la crucifixion, qu'on le châtie à mort sur une croix? Si nous, on assiste à cette scène où on voit des condamnations à mort, on dit, de toute façon, il a été meurtrier, il a volé, il a fait, etc. Je n'ai pas envie de citer les choses les plus horribles qu'on peut commettre comme crime. On en dit, mais il n'a que ce qu'il mérite. Mais un de ces brigands s'est repenti. Il a dit, oui, nous, on méritait ces actes. On méritait d'être crucifiés. On méritait d'être mis à mort. Mais lui, il n'a rien fait. Et s'est tourné vers Jésus, le reconnaissant comme le Sauveur, le Fils de Dieu, le Messie. Il a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et la grâce de Dieu dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le ciel. De notre point de vue humain, de notre justice humaine, c'est condamnable. Pourquoi ce brigand qui a commis tant de crimes, tant de meurtres, tant de choses mauvaises, serait-il au paradis? Matthieu, collecteur d'impôts, il a trahi les Juifs pour s'enrichir. Il a renié la religion pour s'enrichir. Étant riche, du coup, il côtoie des gens de mauvaise vie. Mais Jésus, il mange avec qui? Celui qui a trahi son propre peuple et des gens qui ont une mauvaise vie, une mauvaise influence. Et quand on regarde à tout cela, c'est scandaleux. On serait outragé. Mais souvenez-vous, souvenons-nous d'où Dieu nous a tirés. Est-ce qu'on méritait vraiment? Je ne sais pas si vous avez été meurtrier dans votre vie. Je ne sais pas si vous avez été voleur. Je ne sais pas ce que vous avez été et ce que vous avez commis de mauvais. Mais vous souvenez-vous de la grâce de Dieu qui est venue vers vous et qui vous a touché encore et encore, qui vous a cueilli. Où Jésus est en train de vous dire, je t'aime, pas parce que tu as fait des bonnes choses, mais je t'aime parce que tu es précieux à mes yeux. Notre chair voudrait mériter. On voudrait mériter la grâce de Dieu. On voudrait mériter la faveur de Dieu. Mais c'est un non-sens. Parce que grâce, littéralement, c'est la faveur imméritée, le don immérité. Et ô combien il nous faut réaliser à quel point la grâce de Dieu a été grande dans notre vie. Ô combien quand on repense, c'est pour cela qu'on en chante des chants comme ça, c'est pour cela qu'on parle qu'on compte les bienfaits de Dieu, c'est pour cela qu'on parle des bénédictions de Dieu, c'est pour ça qu'on témoigne de la puissance de Dieu dans notre vie, de ce qu'il a fait dans notre vie. On témoigne de la grâce de Dieu. Pour nous souvenir aussi de qui est Dieu et à quel point sa grâce a été extraordinairement grande à notre égard. Et encore, cette grâce est faussée parce qu'on n'a pas encore tout vécu. On n'a eu qu'une image, une parcelle de ce que c'est vraiment sa grâce. Quand on parle de grâce infinie de notre Dieu, cette grâce qui va au-delà de ces choses, cette grâce qui ne regarde pas au péché, qui ferait que nous, on punirait ou qu'on condamnerait. Mais cette grâce qui regarde au cœur, qui a besoin de Jésus-Christ. Quand on regarde la personne qui ne connaît pas Jésus, la personne inconvertie, on dit, ok, il ne connaît pas Jésus. Il a besoin de la grâce de Dieu. Et c'est vrai. Mais d'autant plus, je rajouterai, quand on regarde mon frère, ma sœur, il a aussi besoin de la grâce de Dieu. On passe tous par des moments de faiblesse, on passe tous par des moments compliqués dans notre vie, on a tous peut-être quelque chose qui nous tient, des addictions, des colères, des disputes, des très mauvaises choses qui nous tiennent. Et nous, lorsqu'on le repère, nous sommes un peu comme ces docteurs de la loi, ces spécialistes de la loi et ces pharisiens. On est dans le jugement et la condamnation. On est les premiers à tirer sur la personne. C'est d'ailleurs même tout le sens de la parabole des deux fils perdus, entre parenthèses, le fils prodigue, vous connaissez. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, le fils cadet s'en va, il renie son père. Et puis quand il revient, parce qu'il a besoin de la grâce de son père, et qu'il est au bénéfice de la grâce de son père, parce que non seulement le père le rétablit, l'accueille, mais en plus il le rétablit en tant que fils. Nous, dans le meilleur des cas, on aurait dit « Ok, je t'accepte, mais en tant que mercenaire, en tant qu'esclave, en tant qu'ouvrier, plus en tant que fils, parce que tu m'as renié en tant que père. » Mais non, le père, il est là et il accueille et le rétablit en tant que fils. Et d'autant plus étonnant, c'est la réaction du grand frère. Scandalisé qu'il revienne et que le père l'accueille et le rétablisse. Et parfois, nous sommes un peu comme ce grand frère aîné, où on est là. Et on regarde au péché de mon frère, de ma sœur. On regarde au péché de notre prochain, plutôt qu'à son besoin du Christ. On croit souvent que lorsque on regarde avec grâce, lorsqu'on fait grâce, comme Jésus nous a fait grâce, parce que nous sommes appelés à être comme Christ, nous sommes en train de cautionner. Nous sommes en train d'accepter le péché chez la personne. On a l'impression que lorsque nous exerçons la miséricorde, lorsque nous accompagnons notre frère, notre sœur dans la difficulté, alors que peut-être un péché le tient, et qu'il a le courage ou qu'elle a le courage de nous le partager. On cautionne son péché. Peut-être qu'on n'entend pas la même chose. Nous, lorsqu'on voit le péché, on entend la condamnation. Alors que la personne qui est en train de nous dévoiler son péché, de partager, c'est un cri au secours. J'ai besoin d'aide. Et au lieu d'avoir ce regard de condamnation, qu'on puisse avoir ce regard de compassion. Je ne veux pas juger mon frère, ma sœur. Je veux t'accepter. Pas le péché en toi, mais toi, je veux t'accepter. La grâce de Dieu ne regarde pas à notre péché, elle regarde à notre humanité qui a besoin de lui. La miséricorde de Dieu, c'est celle qui pallie à nos faiblesses humaines. L'apôtre Paul dira « Je ne fais pas le bien que je veux faire, et je fais le mal que je ne veux pas faire. » Alors qu'il a des années, alors que ça fait un moment qu'il est touché par la grâce de Dieu. Ça veut dire que nous-mêmes, dans notre nature humaine, nous commettons encore des erreurs. Nous sommes encore enclins à faiblir et à avoir des moments difficiles, des moments de faiblesse. Mais si l'Église existe, ce n'est pas pour réunir des gens parfaits, mais c'est pour accueillir les gens les plus imparfaits que nous sommes. Pour que, ensemble, nous puissions prendre des victoires, être mieux. L'apôtre Paul le dit ainsi dans l'épître à Tite, au chapitre 2, verset 11. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle n'est juste pas là pour nous offrir le salut. Verset 12, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le mot impie, c'est le mépris de Dieu, loin de tout ce qui est des choses de Dieu. Elle nous enseigne à renoncer aussi aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent, conformément à la sagesse, la justice et la piété. La grâce n'est pas juste une action de « je t'ai fait une faveur ». Elle nous enseigne. Ça ne veut pas dire que nous avons acquis les choses, mais quand la grâce nous enseigne, ça veut dire qu'on est en train d'apprendre. Nous sommes en processus d'apprendre à quoi ? À renoncer à une vie loin de Dieu, à une vie où on a minimisé Dieu dans notre vie, où on a fait un Dieu à notre image, à renoncer à un mode de vie où on serait plein de convoitises envers les choses de ce monde. Et quand on parle de convoitise, ce n'est pas forcément le sexe, l'argent, la drogue, l'alcool. Ça peut être même tout ce qui prend la place de Dieu, tout ce que vous désirez encore plus que Dieu. Elle nous enseigne à renoncer à vivre dans un temps présent, conformément à la sagesse. Je rajouterai peut-être même la sagesse selon Dieu. Et la justice de Dieu et la piété. Elle nous enseigne toutes ces choses-là. Elle n'est pas juste là pour dire « Tu es sauvé, alléluia, gloire à Dieu, je suis sauvé par la grâce de Dieu. » Non, la grâce de Dieu, elle est là pour nous enseigner à vivre de plus en plus et à être de plus en plus à l'image de Dieu, à tendre vers la perfection. Quand Jésus a rétabli ces quatre personnes qu'on a citées, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit à la femme adultère, alors que les autres, alors qu'ils posaient la question, alors où sont ceux qui t'ont condamné, ceux qui t'ont jugé ? Elle dit, ils sont partis. Et lui, il répond, moi aussi, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Dans sa grâce, Dieu lui pardonne, mais la responsabilise. C'est à toi maintenant, ayant reçu ma grâce, de te tenir dedans. Lorsqu'il le fait avec la femme pécheresse, il est en train de dire quelque part que les péchés aussi nombreux soient-ils, fait grâce. Il fait grâce. Nous, on est là et on est quelque part en train de mesurer plus ou moins, c'est un gros péché, c'est un petit péché, c'est un péché moyen, comme s'il y avait un ordre de péché auquel si on arrive très très loin dans le péché, c'est juste pas pardonnable. Mais la grâce de Dieu est en train de dire non, aussi important que peut-être ton péché, mon sang, mon sacrifice et mon amour pour toi fait que confessé et repenti, il est pardonné. Nous, on dirait, c'est trop grave ce qu'il a fait. Et on l'aurait condamné. Mais aux yeux de Jésus, ce n'est pas ça. Le même principe se retrouve chez le brigand, qui publiquement, aux yeux du monde entier, a été condamné. La conclusion, quand il parle dans l'épisode de Matthieu, c'est lorsqu'il répond aux pharisiens et aux spécialistes de la loi, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et allez apprendre ce que signifie « je désire la bonté et non les sacrifices ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Si nous sommes sur la terre, c'est aussi non seulement pour témoigner du Christ, touché par sa grâce, mais c'est aussi pour apprendre et à changer au fur et à mesure d'attitude, aller de mieux en mieux. L'Église, c'est le lieu où on accueille des gens plus ou moins qui ont compris plus ou moins les choses. Et que même si on peut avoir 15 ans de marche avec Dieu, 20 ans de marche avec Dieu, on peut être passé complètement à côté de la grâce. Parce qu'on ne s'est pas appuyé sur le fait de chercher vraiment qui est Dieu. On était plutôt là en train de se regarder soi, à notre spiritualité, à notre connaissance, à notre ego, à notre compétence, à nos capacités, mais pas à Dieu. Parce que ces quatre personnes, comme j'ai cité, qui ont été au bénéfice de la grâce de Dieu, n'ont plus regardé leurs conditions, mais ils regardent comme Jésus leur a regardé. Je prie pour que on puisse réaliser à quel point et comment Dieu nous regarde encore plus, pour qu'on puisse nous-mêmes regarder comme Dieu regarde. Qu'on puisse avoir autant de compassion pour mon frère, ma sœur, mon prochain, mon bien-aimé, ma bien-aimée, comme Jésus a eu compassion de nous. Il a souffert avec nous. Il s'est fait homme pour souffrir les mêmes souffrances que nous, rejetés par les siens. Maltraités, humiliés, brisés pour nos péchés, pour nos iniquités. C'est ça, Jésus. C'est ça, la grâce de Dieu. À nos yeux, c'est scandaleux. Mais n'est-ce pas scandaleux d'avoir crucifié un homme juste pour nous les injustes? Alors que Dieu nous aide à détourner notre regard, non pas sur le péché, ne pas nous focaliser sur le péché, mais sur Christ. Que Dieu nous aide. Alors que nous prions, alors que nous voyons peut-être mon frère, ma sœur, vous connaissez des gens dans votre entourage, famille, bien-aimés, et que vous les voyez dans des difficultés, qu'on puisse regarder et prier. Que Dieu nous aide à voir comme lui voit, et que de cette grâce qui est aux yeux du monde et scandaleuse, nous aide à réaliser à quel point nous sommes privilégiés, nous qui en sommes bénéficiaires, et qu'on puisse nous-mêmes en retour l'imiter et faire grâce. Non pas parce qu'on cautionne le péché, mais parce qu'on veut que notre frère, notre sœur, notre prochain aille mieux. Parce que mettons-nous à la place de cette femme qui a commis des péchés. Mettons-nous à la place de ce brigand. N'aurions-nous pas aimé être accueillis? N'aurions-nous pas aimé qu'on nous accompagne vers la sortie, vers notre percée, vers la bénédiction, vers Dieu? N'aurions-nous pas aimé qu'on nous écoute, qu'on nous comprenne? N'aimerions-nous pas ça, ce genre de frères, de sœurs? Ben, la loi dit quoi? Que tout ce que vous aimerez que les autres fassent pour vous, vous faites de même. Alors que Dieu nous donne la sagesse de pouvoir le faire. Seigneur, merci. Merci parce que sur la terre, tu as fait tellement de choses, de prodiges, de miracles, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur, béni sois-tu pour les guérisons que tu as accomplies. Mais Seigneur Jésus, béni sois-tu pour les actes d'amour que tu as eus envers ces hommes qui étaient perdus, envers ces hommes qui peut-être n'avaient pas le choix que de suivre le chemin du péché et qui étaient prisonniers, mais qui, lorsqu'ils t'ont reconnu comme sauveur, sont venus à toi, Seigneur mon Dieu. Seigneur, on veut, alors que tu nous as donné ces exemples, faire de même, parce que nous sommes tes disciples. Nous sommes, Seigneur mon Dieu, enfants de Dieu, et nous sommes appelés à le faire. Et Seigneur mon Dieu, notre nature, notre être, Seigneur mon Dieu, notre limitation fait que nous sommes à tendance de jugement, de condamnation, Seigneur. Et je te prie vraiment, Seigneur mon Dieu, de nous aider à changer de mentalité, à être plus dans la compassion, à être plus dans l'amour, Seigneur mon Dieu. Non pas parce que les gens méritent, non pas parce que quelqu'un l'aurait mérité. Non, c'est parce que tu nous as aimés le premier et que tu nous demandes de t'aimer et d'aimer notre prochain comme toi tu nous as aimés. Seigneur, alors donne-nous à réaliser la grâce que tu as encore eue à notre égard, l'amour que tu as encore à notre égard, le regard que tu as envers nous, Seigneur mon Dieu, alors que nous sommes peut-être dans la difficulté, alors que nous sommes peut-être liés par un péché secret, Seigneur mon Dieu, qui peut-être nous donnerait à être à jouer en surface, Seigneur mon Dieu, la piété, mais qu'au-dedans de nous, nous sommes tristes et malheureux, bien misérables, Seigneur mon Dieu. On a besoin de ta grâce. Seigneur, je t'en prie, viens. Viens nous remplir de ton amour. Viens nous aider à réaliser, Seigneur mon Dieu, la grâce infinie. La grâce de Dieu. Amen.